Vous écoutez France Culture.
Éthique, une émission hebdomadaire proposée par Monique Cantot-Sperber. Y a-t-il une éthique érotique avec Patrick Farrow? L'amour a toujours été un des sujets majeurs de la réflexion morale. L'amour recherche en effet le bien d'autrui et se présente comme une promesse de bonheur. Mais nul n'ignore qu'il peut parfois conduire à la volonté de posséder l'autre, voire à celle de le nier purement et simplement. Ces questions sont fort anciennes. Et s'il y a un apport contemporain à la réflexion éthique sur l'amour, il est probablement lié, entre autres choses, aujourd'hui au statut explicite et revendiqué de la sexualité. Sans doute aussi à une nouvelle définition des liens humains dont nos sociétés progressistes se sont fait un point d'honneur. Patrick Farrow, vous venez de publier Ethica Erotica, mariage et prostitution. Donc vous vous intéressez d'emblée aux institutions qui permettent d'encadrer le lien amoureux. Aux presses de Sciences Po. Alors, pour certains de nos auditeurs, l'idée d'une éthique de l'amour ou d'une éthique érotique paraîtra surprenante. Qu'est-ce qui vous paraît rendre la chose légitime ?
L'éthique érotique, ce n'est pas toute l'éthique de l'amour. C'est une partie de l'éthique de l'amour, enfin de l'éthique amoureuse qui est peut-être plus large que l'érotique proprement dit. Bon, si vous voulez, mon travail sur l'éthique érotique, c'est un travail qui porte d'abord sur la notion elle-même et aussi en même temps sur les institutions et les cultures du sexe, c'est-à-dire les institutions de la sexualité, comme disait Foucault, c'est-à-dire le mariage, la prostitution, le concubinage, éventuellement le célibat comme une institution par défaut.
Alors, pour la question qui nous occupe, qui est plus centrée sur ce qu'il y a de proprement éthique dans l'érotique ou du prolongement érotique que peut avoir l'éthique, une caractéristique contemporaine des ambitions de nos concitoyens, en tout cas dans une société libérale, démocratique, avec un niveau assez avancé de civilisation comme la nôtre, c'est la volonté, au fond, héritée de Rousseau, héritée du manifeste qu'a été la Nouvelle Héloïse, d'associer l'amour comblé et l'épanouissement sexuel, c'est-à-dire la possibilité de mettre la vie entière sous le sceau d'un amour et où seraient réunis les liens du cœur et les besoins qui sont propres à la sexualité.
Alors les mariages d'amour, ça a été effectivement un idéal de la modernité. Effectivement, on peut le dater à partir de Rousseau. On le voit en tout cas dans les Lumières, on le voit dans le roman sentimental anglais. C'est effectivement le grand idéal. Pour autant, le mariage comblé, y compris sur le plan érotique, n'a pas été, je crois, le modèle dominant de la société bourgeoise du 19e siècle, par exemple, ou de la société bourgeoise du début du 20e siècle en particulier, parce que la question de l'éthique érotique était relativement soit minimisée à l'intérieur de l'éthique conjugale, soit mise à l'extérieur, si vous voulez. Quand je parle d'éthique érotique, j'entends, disons, un sens large, on peut dire qu'il serait l'intégration du plaisir dans la conduite amoureuse. C'est pour ça que je dis, c'est pas toute l'éthique amoureuse, c'est l'éthique amoureuse dans son rapport à la jouissance, au plaisir.
Quel lien joue la sexualité dans ce lien humain qu'est l'amour, une relation tout à fait singulière à un individu tout à fait caractérisé et isolé entre tous.
Sachant qu'on peut aimer sans sexualité, on peut avoir des amours platoniques. Bon, c'était le cas de l'amour courtois en grande partie, et on peut avoir de la sexualité, avoir des relations sexuelles sans amour, ce qui est le cas manifestement de la prostitution, même si la question de l'amour est impliquée dans le travail du sexe. D'un côté, ça c'est le sens large. Au sens plus étroit, et ça explique aussi un peu la façon dont j'ai procédé, on peut dire que l'éthique érotique, c'est le souci de la jouissance et du bien-être du partenaire, en vue du bien-être mutuel. C'est-à-dire que les récompenses subjectives dépendent des récompenses d'autrui. Et dans nos traditions culturelles, l'éthique érotique, dans ce sens-là, c'est-à-dire en particulier la question de la jouissance d'autrui, a été recouverte par l'éthique conjugale. Alors, si on considère simplement les devoirs qui sont mis en avant par les chrétiens, c'est le don de soi, le soin mutuel et la fidélité à vie, sans qu'il soit question d'érotisme. Donc, cette partie-là de l'éthique érotique a été un peu recouverte par l'éthique conjugale ou par les aspects non érotiques de l'éthique amoureuse, comme dans l'amour courtois, éventuellement dans l'amour romantique, c'est-à-dire l'attachement, la galanterie, le dévouement. Et une chose que je vais dire encore, parce que ça correspond à l'argument de mon livre, c'est que cette situation de l'éthique conjugale a fait que les prostituées ont été historiquement les seules spécialistes ou les principales spécialistes de l'éthique érotique pour des raisons commerciales et d'exclusion du plaisir du mariage traditionnel.
Attendez, puis-je vous interrompre sur ce point? En quoi était-elle spécialiste de l'érotisme? Je le comprends bien, mais en spécialiste de l'éthique, je le comprends moins bien. Juste un mot d'explication est dû à nos auditeurs. Que voulez-vous entendre?
C'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Spécialiste des voluptés, spécialiste de l'érotisme sur un plan technique, tout le monde le comprend assez bien. Bon, donc j'ai essayé de travailler sur l'expression autonome, si on peut dire, enfin l'expression volontaire.
Et qu'apprend-on à lire tout cela donc,
voilà, c'est ce dont je rends compte dans la deuxième partie du livre. C'est qu'on voit que c'est la compétence technique. Certains en parlent, ou certains en parlent, mais c'est aussi une disposition morale qui implique des vertus. Alors, la première vertu, elle est d'une certaine façon constitutive, c'est une vertu d'altruisme, qui s'explique moins pour des raisons d'intention bonne en soi ou de principe que par des raisons commerciales. C'est-à-dire que c'est bien de l'autre qu'il s'agit.
Mais en quoi cet altruisme distingue de tous les autres services ? Qu'on aille chez un masseur, une manucure ou un coiffeur, a un service et on paye.
Bien sûr, mais voyez-vous, il y a une éthique médicale. Et l'éthique médicale, elle est liée à des services que l'on fait payer, comme le soin du corps d'autrui, la sollicitude à son égard, savoir s'il va bien, s'il va mal, comment il peut aller mieux. Et on reconnaît très volontiers le statut de l'éthique médicale, bien que ce soit un service rémunéré. On pourrait en dire autant des professions que vous avez citées. Dans ce cas-là, évidemment, on a eu tendance à parler plutôt de petites vertus dans un sens assez péjoratif, sans prendre en compte alors ce qu'il y a derrière cet altruisme commercial, c'est-à-dire de la patience, de l'humilité, de l'empathie, de l'attention, de la sollicitude, de la compassion, du courage, de la disponibilité.
Mais qui vaut de la même façon pour toutes les prestations, les métiers de service qui visent à un meilleur état ou à un confort accru de la personne dont ces métiers s'occupent.
La sexualité, elle a des liens avec l'amour. Hein. La sexualité n'est pas indépendante de l'amour.
Mais justement, qui pense à l'amour pense immédiatement au désintéressement. Donc s'il y a quelque chose que l'amour semble exclure, c'est précisément l'échange tarifé. Donc pour en revenir, si vous voulez, revenons avant de parler de la prostitution, qui est une question extrêmement importante et surtout qu'il serait bien aisé de mettre de côté et de confiner aux personnes qui en font leur métier. La présence des liens d'intérêt mutuel et même de l'argent purement et simplement dans les relations les plus amoureuses qui soient et apparemment les plus désintéressées est une chose qu'on ne peut pas ignorer. J'aimerais que nous en parlions ensuite. Mais revenons à l'amour. D'après les nombreux résultats de questionnaires ou d'enquêtes sociologiques que vous citez, c'est l'aspiration dominante. La quasi-totalité des êtres humains aspire à l'amour, aspire à un lien particulier, souvent un lien de personne à personne, et où, lorsqu'il s'agit d'amour, la sexualité soit présente. Ça, c'est une demande dominante et elle est très caractéristique de notre époque, et d'autant plus caractéristique que notre époque la rend possible d'une certaine façon. On peut se rencontrer, pour prendre le cas des couples hétérosexuels, on peut se rencontrer facilement. Lorsque un mauvais lien a été conclu, on peut s'en défaire. Laissons de côté la question du mariage officiel, mariage ou pas mariage. Parlons simplement du lien humain. Il peut y avoir des liens plus forts sans aucun mariage qu'il n'y en a au sein d'un mariage. Donc cette aspiration si caractéristique Il me semble qu'elle a aujourd'hui un caractère particulier qui est qu'elle est inévitablement liée à une présence revendiquée de la sexualité. Un couple amoureux où la sexualité et l'expérience sexuelle est un échec sera un couple endommagé par ce non-accomplissement. Comment la sexualité et la réussite de la sexualité a tendance à être considérée comme un révélateur, en quelque sorte, de la réussite de la relation, même de la réalité de l'amour. Ouais, que penser de cette caractéristique très contemporaine ?
La première chose à dire, malgré tout, c'est que c'est un... Bon, l'amour est une caractéristique de notre époque, sans doute. Peut-être pas seulement de notre époque, hein, puisque les psychologues évolutionnistes pensent qu'en fait c'est un universel, c'est une constante qu'on va retrouver. Il y a énormément d'études. Mais une autre caractéristique de notre époque, c'est le point que vous avez souligné, c'est que c'est pas simplement l'amour au sens le plus éthéré, c'est l'amour dans sa dimension charnelle. Et cette dimension charnelle, son apparition, son importance dans la culture contemporaine, bon, elle est clairement liée à la libération sexuelle, à la progression de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Elle est liée aussi à la commercialisation, à la marchandisation des plaisirs. C'est-à-dire que la question du plaisir est devenue extrêmement importante dans tous les domaines de la vie sociale.
Mais la sexualité n'est pas simplement une question de plaisir. Beaucoup de personnes la considèrent comme une forme d'accomplissement de soi aussi. Une sexualité réussie, en tout cas.
Ils la considèrent comme un accomplissement de soi dans le cadre d'une relation amoureuse pleine. La relation amoureuse telle qu'on l'a présentée pendant très longtemps dans la culture bourgeoise du 19e siècle, celle qui était, ou dans la culture victorienne, n'incluait pas
cette
version-là.
Oui, mais aujourd'hui,
mais pourquoi ? La question, c'est comment c'est arrivé ? Je veux quand même parler de la prostitution, parce qu'elle est une partie de ce qu'on appelle, dans la Bible, mais aussi, donc, c'est un mot grec à l'origine, la porneia, c'est-à-dire qui inclut la prostitution, les impudicités, la masturbation, la fornication, toutes les formes de sexe hors mariage. Et cette zone-là, en fait, de l'amour, cette zone de la porneia, avait été exclue, en fait, de la conception bourgeoise de l'amour, si l'on peut dire. En fait, elle a été réintégrée...
Disons qu'elle n'était pas nécessaire. Qu'est-ce qu'on sait de ce qui se passait dans la chambre à coucher des couples les plus bourgeois, hein?
Qu'est-ce qu'on sait de ce qui se passait? Alors, on en sait, bon, on a de la littérature, on a des romans, on a les nouvelles de Maupassant, je raconte certaines d'entre elles, où effectivement, on pouvait tout imaginer, ou tout pour pimenter les relations dans les couples officiels. Mais il faut voir, malgré tout, que cette exigence de dimension charnelle, et non seulement de dimension charnelle, mais de technique érotique aussi, d'élargissement de la palette des gestes de l'amour érotique, c'est quelque chose d'assez nouveau. Bon, je cite par exemple l'enquête de l'INSERM de 2006, qui, entre autres, examine les pratiques sexuelles. Bon, sur un grand nombre, un échantillon important, c'est 30 000 personnes qui ont été enquêtées, et on s'aperçoit effectivement qu'en l'espace de 20-30 ans, les pratiques sexuelles et les exigences sur la part de la sexualité à l'intérieur des relations amoureuses durables ou simplement à renouveler, successives, sérielles, comme on dit maintenant, on parle de monogamie sérielle, a pris une importance qu'elle n'avait pas, hein, si vous voulez. Lorsque vous voyez, ça on peut le documenter par le cinéma, j'essaye de le faire dans le livre, j'ai essayé de le faire ailleurs, dans les séries télévisées aussi, où il y a cette apparition, si vous voulez, une chose dont il faut prendre conscience. Comparons la comédie romantique telle qu'elle a été présentée par Stanley Cavell dans ses études sur les comédies du remariage, une série de films qu'on peut voir aujourd'hui au cinéma. On voit que la part de la satisfaction érotique dans la conversation, ce que Cavell appelait la conversation amoureuse, a changé, n'est plus la même. Et ça, il faut en prendre conscience de cette introduction de l'impudicité. La porneia, c'est l'impudicité.
Elle a changé au sens où la sexualité est d'emblée plus explicitement présente.
Il y a une revendication, ça on le voit, regardez des séries que les jeunes gens aiment beaucoup aujourd'hui, comme la série Girls, où on voit, bon, mais il y a beaucoup de films où on va voir ce genre de choses, où il y a une revendication, non pas pornographique, je pense que ça n'a pas beaucoup de sens de parler, de la société pornographique ou pornographique, ou de la société hypersexuelle, etc. Mais il y a une revendication sur ce plan-là. La plénitude inclut, alors la porneia au sens large, hein, inclut la possibilité d'assumer une certaine impudicité, sauf ce qui est nouvelle, en effet.
Oui, mais qui aujourd'hui est parfaitement compatible avec le lien humain.
Absolument.
Sous forme informelle ou sous forme institutionnelle.
Elle en est le couronnement. Elle en est le couronnement. Elle est la fleur.
Bon, alors justement, on n'a plus besoin d'un lieu à part ni d'une profession à part pour trouver ça, d'une certaine manière. Oui. Tout membre d'un couple peut l'apporter au sein du couple.
Vous avez raison.
Mais alors, qu'est-ce que ça change quand cela doit s'inscrire dans une relation amoureuse dont on sait qu'aujourd'hui, elle est quand même, étant donné la complexité de notre monde, ce n'est plus du tout un destin, une relation amoureuse. Quand elle dure, les personnes ont véritablement lutté pour la faire durer le plus souvent. Ce n'est plus du tout une évidence. Donc, quel rôle joue cette sexualité revendiquée, explicite, et qui est inévitablement est prise, si on peut dire, sinon dans un grand marché, du moins dans une sorte de tourbillon d'informations au sein du couple. Est-ce que c'est un élément qui contribue à solidifier le couple ? Est-ce que c'est un élément qui le rend vulnérable ?
Si tout va bien, oui, certainement. Je pense que si tout va bien, une sexualité épanouie, personne ne niera qu'elle fait partie de la consolidation d'un couple. Mais en même temps, elle est une exigence qui s'ajoute à beaucoup d'autres.
Certains prétendent qu'il y a même des raisons chimiques et qui sont liées à la constitution psychologique et physique de l'être humain qui fait qu'au bout de quelques années, c'est très difficile de maintenir le désir avec le même partenaire.
Donc, la constitution physique, si vous voulez, je ne crois pas, à ma connaissance, il n'y a pas de preuve neurologique. Par exemple, ce qu'on appelle la démangeaison des 4 ans, ça a été beaucoup étudié par les psychologues évolutionnistes. C'est un fait qu'on constate, c'est un fait statistique. D'ailleurs, c'est vérifié par le taux des divorces à 4 ans dans les chiffres de l'INSEE. Si vous regardez ces données-là, vous verrez qu'effectivement, c'est à 4 ans que les choses se compliquent. Alors après, je suis différentes études qui regardent ça, par exemple, du point de vue de l'économie, par exemple, et de la perte d'utilité marginale avec le temps, etc. Bon, avec différents modèles, notamment.
Mais quoi qu'il en soit des causes, c'est un fait constaté. Alors, on constate deux faits qui, malheureusement, ne vont pas très bien ensemble. C'est l'importance que joue la sexualité dans un couple réussi. Le fait aussi qu'au bout d'un certain nombre d'années, le désir mutuel semble s'émousser. Alors, est-ce que un couple qui dure est encore un idéal ? Et comment faire pour surmonter cette exigence qui semble incompatible avec...
Une des réponses que je propose et que je développe aussi.
La présence de la sexualité.
Explicitement, c'est la question justement des vertus érotiques. C'est-à-dire que la question... Bon, ma démarche n'est pas normative, je ne dis pas ce qu'il faut faire, mais effectivement, on peut se demander si la culture des vertus érotiques, la pratique des vertus érotiques, c'est-à-dire le soin d'autrui, le souci de ce qu'il est, de ce qu'il veut, de ce qu'il demande, de ce qu'il espère, qui est une donnée de base de l'éthique érotique, ne serait pas aussi une condition de consolidation des couples, sachant qu'il y en a beaucoup d'autres. Si vous voulez, je pense que ça
permettrait
la charge, surtout,
de dépasser un certain le caractère que certains spécialistes mettent en avant du désir qui s'émousse nécessairement après un certain nombre d'années. Ça permettrait
de
compenser ça ou du moins de jouer avec.
Il n'y a pas de nécessité. Je pense que ce qui agit la plupart des gens, vous l'avez dit, je suis totalement d'accord avec vous, c'est d'une certaine façon, c'est le mythe de Philémon et Baucis, visité dans les métamorphoses d'Ovide, lorsque les dieux viennent les visiter, que tout le monde les rejette, sauf eux, ce vieux couple, donc ils épargnent, puisqu'il leur a donné, il a accueilli les dieux, et... les dieux leur demandent « Qu'est-ce que vous désirez ?» Que jamais je puisse voir le tombeau de Philémon et inversement. Et donc, les dieux leur donnent satisfaction. Ils transforment leur masure en temple et à la fin, effectivement, ils se transforment. Voilà, ça c'est l'idéal. Alors, on imagine que dans ce tableau plein, avec la longévité, on a aussi la plénitude des âmes et des corps. On l'a ou on l'a pas. J'ai aussi un chapitre, je regarde un peu ces choses-là dans un chapitre sur aimer vieillir. Si on pense dans la carte de Tendre du XVIIe siècle de Madeleine Scudéry, on a en fait la route directe qui est l'inclination, qui vous amène directement à tendre sur inclination. Puis on en a d'autres qui sont l'estime et la reconnaissance, donc avec beaucoup de village. Alors, on ne peut pas savoir, a priori, comment vous êtes arrivé là, au tendre. pour autant qu'il ait duré. Donc on peut penser que vous êtes passé par l'inclination, on peut penser aussi que vous avez pris toutes les autres étapes, ça on ne le sait pas a priori. Ce que je dis simplement, c'est que la question des vertus érotiques, de l'exigence érotique, ça accroît la charge, ça peut rendre la chose un petit peu plus délicate, sachant qu'on parle aussi de la peur de l'engagement, de la multiplicité de l'offre, etc. Donc c'est d'une certaine façon une contrainte supplémentaire. En même temps, ça peut être une condition de si on pense, par exemple, que l'amour, c'est la connaissance d'autrui, qui prend beaucoup de temps, c'est une connaissance complète hein, de ce qu'il est, de ce qu'il est dans son esprit, de ce qu'il est dans son corps, on peut penser que la culture de cette partie-là, ou alors la conscience qu'on ne pourra pas la cultiver, ça évitera un certain nombre d'impasses, de catastrophes. Moi, j'en donne aussi, parce que j'analyse quelques films, j'analyse quelques situations matrimoniales catastrophiques. Bon, on pourra éviter ça peut-être assez vite en sachant que ça ne sera pas possible. En sachant que ça ne sera pas possible parce qu'il y a ça aussi. Voilà.
Alors, si vous voulez, deux caractéristiques contemporaines. Vous consacrez quelques pages à la question de l'adultère. En effet, on ne peut pas ne pas s'étonner qu'à une époque où les rapports sont très libres, où il est facile de défaire les mariages et de manière plus générale défaire les liens humains. Prenons adultère comme... partenaire extérieur à un lien humain établi, que ce soit avec un mariage ou sans mariage, peu importe, qu'à une époque où il est relativement facile de dissoudre et où les personnes considèrent qu'elles se lient avec qui elles aiment et quand elles n'aiment plus, elles vont ailleurs, ou parfois le fait d'avoir une expérience adultère extérieure au lien contracté, que ce soit sous forme officielle ou pas, révèle le désamour. On connaît tous le fameux passage de Russell descendant de sa bicyclette et se rendant compte qu'il n'aimait plus du tout sa femme. Donc on en voit des illustrations à toutes les échelles de notre société, du plus haut au plus bas. N'est-ce pas un paradoxe, cela ? Qu'à une époque où les liens sont libres, on peut les contracter et les défaire sans aucune espèce de sanction sociale, l'adultère... encore une fois, qu'il ne faut pas entendre uniquement par rapport au mariage, mais par rapport à tout lien minimalement institué, soit une pratique aussi fréquente.
Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que la sexualité était le point d'arrivée, enfin, c'était la suite de l'amour hein, pendant longtemps. On commençait par tomber amoureux, et puis après, on se mariait, on avait éventuellement des relations sexuelles. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on a d'abord une relation sexuelle, assez rapidement, et puis après, on peut éventuellement développer une relation amoureuse.
Comment commencer à parler, oui. En effet, ça c'est aussi une caractéristique.
C'est une situation dont il faut prendre conscience. Les mariages se défont au gré de ceux qui les font. C'est à eux de savoir s'ils veulent les faire durer ou pas, s'ils sont capables de les faire durer.
Mais justement, la relation extérieure au lien constitué est-elle un moyen de détruire le lien ou de le faire durer ? Enfin, on aurait tendance à penser que c'est une condamnation du lien. Or, on observe que ce n'est pas toujours le cas.
Il n'y a pas de leçon générale, si vous voulez. Bon, moi, je cite des chiffres. Là, il y a encore une enquête IFOP dont on parlait. Je ne l'ai pas consulté directement, mais dans la presse ces derniers jours, qui fait état de taux d'infidélité des femmes... de l'ordre, je pense, de 30% de femmes qui auraient été infidèles et d'hommes, c'est un petit peu plus sensible. Ceci dit, revenant à l'enquête INSERM, on s'aperçoit que le taux d'infidélité sur une année n'est pas si grand que ça. C'est-à-dire que sur cet échantillon...
Un tiers des couples, quand même.
Pardon ?
Un tiers des couples.
Non, un tiers des couples. Avoir été infidèle, dans sa vie au moins une fois sur trois, évidemment, ça veut dire que l'infidélité existe. Est-ce que ça veut dire que les couples sont infidèles en permanence ? Si vous allez sur les blogs, les féminins, etc., il y a énormément d'enquêtes qui ne font pas du tout ressortir ça. Le taux d'infidélité sur une année, je le cite dans le livre, et donc de mémoire, c'est pour une femme 1,2% et pour un homme 1,5%, sachant que s'il n'y avait pas du tout d'infidélité, ça serait un... C'est pas énorme.
Bon. Donc on peut en conclure qu'à une époque où le lien amoureux est fondé sur le consentement, D'une certaine manière, les liens contractés reflètent les orientations des cœurs.
Voilà, sachant aussi qu'on a la possibilité, puis bon, pas simplement les hommes, mais aussi les femmes, de contracter à court terme. C'est-à-dire que, bon, on parle, je vous le disais tout à l'heure, de monogamie sérielle ou successive. Ça veut dire que les gens se mettent en couple et peuvent se défaire.
Alors, nous pouvons peut-être conclure sur ce point. Voilà une expression très intéressante, monogamie sérielle. Et vous dites contracter pour un temps.
C'est ce que disait Giddens.
Diderot disait que ce qui caractérise le lien amoureux, c'est qu'au moment où on le noue pour toujours.
Ben
évidemment,
oui.
On sait qu'il n'en est rien.
C'est immoral de le faire autrement.
Ceux qui se sont engagés pour l'éternité sont les premiers à rompre quelques jours après. Ça, c'est bien connu. Et on sait qu'il est tout de même difficile. Regardez la manière, enfin, rappelez-vous la manière dont Don Juan séduit en proposant le mariage. Il est difficile de déduire, dans une circonstance un peu difficile, en disant c'est juste pour un jour ou deux, ou même pour une période définie. Donc, cette fiction d'arrière-plan, même si personne n'y croit, cette fiction que le lien est d'une certaine manière un lien quasi pour la vie entière semble être très importante dans la rhétorique de la séduction, même aujourd'hui. Alors, lorsque on parle de monogamie sérielle, et en effet, c'est une expression qui est utilisée pour caractériser les relations d'aujourd'hui, où ce sont des relations exclusives mais successives.
Voilà.
Tandis que les relations classiquement polygames sont des relations pour le temps de la vie, mais juxtaposées. Est-ce que ça vous paraît indiquer ou nous permettre de mieux comprendre une caractéristique contemporaine de l'éthica erotica?
Ben oui, bien
sûr, parce que
ça rend aux individus des deux sexes une liberté de gérer leur relation amoureuse qu'ils espèrent pleine d'emblée, puisqu'ils les espèrent même éternelles quand ils commencent.
De les gérer, que voulez-vous dire? D'éviter de les voir transformer en destin lorsqu'elles ont été mal comprises.
Les gérer en fonction de toutes tous les paramètres qu'on a indiqués, qui sont effectivement la multiplicité des offres, la question des goûts mutuels, la question des compatibilités physiques. Être avec quelqu'un, c'est aimer son odeur, c'est aimer ses colères, aimer son peut-être les aimer un petit peu moins, mais aimer aussi ses tristesses, aimer beaucoup de choses, les supporter en tout cas, et aimer le fait qu'on les supporte, les choses qu'on n'aime pas, aimer. Bon, donc, je vous dis, ayant cette liberté, on a effectivement un certain nombre de contraintes ou de paramètres. C'est pour ça que je dis les gérer pour savoir ce qu'on peut en faire, sachant après que tout n'est pas possible, que tout ne se présente pas de la même façon. Alors, et sachant aussi que toutes les figures sont possibles. Hein. Vous disiez tout à l'heure, quand on aime, on promet forcément l'éternité. Bon, on va trouver beaucoup de contre-exemples. Hein. Je pense par exemple au rôle que joue Charles Denner dans le film de Truffaut sur l'homme qui aimait les femmes. Justement, il se donne. Et Casanova lui-même évitait ça, contrairement à Don Juan, qui était plutôt un sale type. Hein. Mais Casanova évitait de faire des promesses inutiles. Donc voilà, toutes les figures sont possibles. Mais je pensais surtout que la situation moderne, contemporaine, donne des exigences supplémentaires, mais en même temps des ressources pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire de son amour.
Merci Patrick Farreau pour cet entretien. Merci à François Connac qui a réalisé cette émission. Merci à Philippe Palares qui était à la technique. La semaine prochaine, nous parlerons de peinture plutôt, et de la quête du bien, la quête du beau aussi, pour reprendre une thématique platonicienne qui se trouve à la racine de la création d'un peintre, et le peintre dont nous parlerons plus singulièrement, et Rothko. Mon invité sera Annie Colin-Solal. Oh. l'instant, n'oubliez pas Marie Richeux pour pas la peine de crier. Et quant à moi, j'espère vous retrouver jeudi prochain. D'ici là, très bonne semaine à tous.